Bulletin Azur numéro 14 en ce 2 avril 2013. Thomas, bonjour.
Bonjour Benjamin.
Eh bien, rappel rapide AKMS/le Bulletin Azur pour l'adresse de référence et pour Twitter, at Windows Azure France, at Windows Azure FR, pardon, et les différents alias que nous avons. Les Cloud Cover Show de nos cousins américains, 2 épisodes depuis le 5 mars dernier. Le premier sur Metrics Hub, donc tu vas nous en parler un peu plus
Tout à fait.
après. Et puis Windows Azure HD Insight, sur lequel
Là,
je parlerai.
c'est toi qu'on parle.
Voilà, c'est ça. Donc très bien. Les nouvelles locales, les vidéos des Tech Days sont apparues. Donc voilà, il y a.
C'est bien, il y a plein de sessions Azure.
Exactement.
Faut aller les voir.
Nouvelle locale également, bientôt, je crois que c'est le 8 avril que ça commence, les 3 semaines avec Windows Azure en ASP.NET, la deuxième édition de cette formation en ligne qui se passe dans un groupe LinkedIn. Donc vous pouvez aller voir sur AKMS/3 semaines Azure.
Super.
Un événement mondial à Paris, Thomas?
Oui, mondial à Paris. Eh bien, le Windows Azure Global Bootcamp, donc
Oui.
c'est la version française d'une série d'événements qui va se passer dans le monde entier.
Voilà, qui se passent tous
Et
le même jour.
voilà, tous le même jour. Donc, c'est chez nous, chez Spark, donc nos nouveaux locaux en plein centre de Paris, le 27 avril.
Voilà, pour accompagner les startups Spark.
Exactement. Et avec plein de présentations techniques, de nouvelles.
Voilà, donc
De
nos
nouvelles
amis
neuves.
de The Cloud qui organisent ça nous ont donné l'adresse bit.ly/groupparis.
Guap Paris.
Voilà.
On y va.
Toujours ressources locales, le blog Windows Azure France. Et puis également, nouveau. Alors j'ai essayé de faire un truc qui clignotait comme ça pour
Ah
faire
ouais,
nouveau.
il n'y a
Et donc,
pas, il n'y a pas de
avec le
link.
style métro, en fait, non, c'est
Ouais,
ça. C'est un
d'accord.
rectangle.
C'est un
Nouveau.
rectangle. Bon, bah
Voilà,
c'est, on
donc
le voit bien.
c'est voilà. Donc vous allez sur AKMS/bitdata France et vous allez tomber sur celui-ci.
Un blog.
Donc ce blog-là où il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Donc c'est la direction technique de Microsoft France qui a lancé ce blog et vous avez pas mal de choses. Si vous avez envie d'écrire dessus aussi, vous pouvez venir, enfin nous le signaler et nous pourrons vous donner la parole ou le crayon
Super.
ou le clavier. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Alors au niveau des nouvelles globales, donc elles viennent principalement du blog de Windows Azure.
Ouais.
Et donc première nouvelle.
Et ben on va voir aujourd'hui. Donc Microsoft a acquis la société, la start-up Metrics Hub, qui faisait partie d'un programme accélérateur de start-up aux US et qui
Ouais.
a donc développé une extension pour Azure permettant de monitorer les services Azure et puis de prendre des actions, de faire de l'autoscaling, etc. Donc on va regarder ça tout à l'heure.
Très bien. Windows Azure Mobile Services, il y a plusieurs nouvelles sur Windows Azure Mobile Services.
Absolument, ouais. D'abord, on a ajouté donc le support Android qui était très attendu. Donc, support Android notamment pour les push notifications et puis le SDK d'une façon générale pour Mobile Services
Ouais.
et l'extension dans le data center East Asia.
Ensuite, Combat in the Cloud Game Designer Launches Global Online Game on Windows Azure.
Voilà, tout à fait. C'était Webzen, qui était un
Ouais.
gros éditeur de jeux Facebook, de jeux en
Ouais.
ligne en Corée, qui a choisi Azure pour déployer sa plateforme. Donc, c'est un retour d'expérience intéressant pour tous ceux qui feraient du gaming en général, notamment du Facebook gaming, social gaming sur Azure.
En s'appuyant sur Include.
Exactement.
Très bien. Windows Azure Root Certificate Migration. Donc là,
Ah,
tu nous as écrit un blog là-dessus
en voilà une
d'ailleurs.
nouvelle intéressante. Bon, donc en fait, il y a eu, vous avez peut-être d'ailleurs reçu un
Oui.
email vous prévenant d'une migration, d'un changement de certificat. En fait, on va changer
La racine.
la racine de notre certificat. Donc, le certificat qui est utilisé pour sécuriser les échanges avec l'API Windows Azure. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. C'est uniquement si vous utilisez les API Windows Azure, ça, il y a des chances que vous le fassiez, et que vous êtes dans une configuration qui fait que notre nouvelle Certificate Authority ne serait pas automatiquement reconnue. Dans ce cas-là, il faudrait que vous alliez donc lire les détails et changer votre
En
chaîne
gros,
d'authentification. Enfin,
un certificat, il est signé par un autre certificat qui est
ouais,
signé par un autre certificat, etc., jusqu'à la
jusqu'en
racine.
haut. Voilà.
Et à la racine, en fait, les systèmes d'exploitation, Windows ou d'autres, en fait,
Ouais.
connaissent un certain nombre de racines.
Exactement,
Donc,
une liste.
comme là, on a changé de racine, si par hasard,
La
votre...
deuxième n'était pas. Alors, il se trouve que les deux, c'est Cybertrust. Les deux sont par défaut dans Windows. Elles sont par défaut dans les navigateurs. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Mais si vous êtes sur une plateforme Java, Linux ou autre, ça vaut le coup de vérifier. Notamment si vous avez. Voilà, vous avez. Alors, c'est aussi dans les listes de certificats standards qu'on trouve, notamment la liste qui est diffusée sur le site de Mozilla, etc. Donc, les deux sont dedans. Normalement, ils sont vraiment partout, mais voilà, si vous êtes sur une plateforme un peu non standard, ça vaut le coup de vérifier.
Voilà. Alors, en plus d'Android, dans Mobile Services, on avait ajouté le support de Corse,
oui.
C'est-à-dire en fait de HTML5 qui appelle un autre site, tout bêtement.
Tout à fait.
Un JavaScript qui appelle un site dont il n'est pas issu lui-même.
Voilà, exactement. Ce qui nécessite d'avoir un header supplémentaire pour que le navigateur laisse passer la chose.
Et donc, ce deuxième site, c'est évidemment Mobile Services, puisque ce sont des API REST. Et entre autres, ça permet de supporter des applications de type PhoneGap.
Alors, PhoneGap en web mobile, ou bien tout simplement votre site web, le frontal web qui utiliserait les mêmes services back-end que vos applications mobiles.
Exactement. Et puis également le fait de pouvoir utiliser Dropbox, par exemple, pour les websites.
Enfin, pour les différentes websites, news. Pouvoir déployer à partir de Dropbox, qui est un scénario qui n'est peut-être pas super répandu, mais en fait, l'idée, plus que d'utiliser Dropbox comme SCM, qui n'est peut-être pas forcément une super idée, mais pourquoi pas, admettons, c'est plutôt, par exemple, si vous avez un SCM bien propre, et puis quand vous faites une publication, vous extrayez la branche ou ce que vous voulez mettre en ligne, vous le mettez dans un Dropbox, là Azure Websites peut le chercher directement et le déployer en ligne. Voilà, ça peut servir dans ce genre de...
Très bien. HD Insight, donc ça y est, HD Insight est en bêta publique, donc depuis le portail Windows Azure, on peut créer un cluster Hadoop, donc on verra ça. Toujours Mobile
Encore
Services,
Mobile Services c'est
Windows Phone 7.5 via 7.5. La Portable Library.
Voilà, ce qui était bien attendu aussi.
Et puis, donc ce dont tu parlais tout à l'heure, le fait que y ait des nouveaux accélérateurs dans Windows Azure. Alors ça, ce blog post-là, il est plutôt à destination des Américains. En France, nous avons également un programme d'accélérateur qui tourne aussi.
Mais oui.
Et donc, c'est l'accélérateur Windows Azure. Vous pouvez vous inscrire à akms/cloud.
Donc, un accélérateur, c'est un programme pour aider les startups, n'est-ce pas, à démarrer leur activité, les aider techniquement à utiliser Azure.
Voilà, exactement. Exactement. Donc vous pouvez vous inscrire. Et c'est bien. Nous arrivons à la démo, première démo de la journée.
Allons-y.
Matrix Hub. Donc je te passe la main.
Fantastique. Génial. Donc je vais vous parler rapidement de Matrix Hub. Donc société, une start-up qui a édité donc cet outil de monitoring pour Azure. On l'a intégré dans quelque chose qui s'appelle le Azure Store, qui n'est pas forcément connu de tout le monde, donc je montre comment ça fonctionne. C'est quelque chose qu'on trouve ici dans le portail Azure, dans la partie add-ons, on voit les choses que j'ai achetées dans l'Azure Store. Et donc, notamment, il y a quelque chose qui s'appelle Active Cloud Monitoring, et c'est ça, Matrix Hub. Ah. Et comment on fait pour l'acheter? On va dans New, on va dans Store, et puis le premier, ça tombe bien, c'est Active Cloud Monitoring, donc le service de Matrix Hub. On a juste à faire next, next, next. Et vous voyez, comme on vient de les racheter, l'offre va probablement rester gratuite ou en tout cas intégrée à Windows Azure jusqu'à pour toujours, on espère. Donc c'est gratuit et vous pouvez le déployer sans payer pour l'instant. Alors juste la toute petite subtilité, c'est que ça marche si vous avez un compte en Pay As You Go, donc un compte sur lequel vous payez par carte bleue. Si vous avez un compte prépayé type Enterprise Agreement, donc vous êtes client et vous avez prépayé de l'Azure, ça ne fonctionne pas malheureusement. Donc il faut...
Parce qu'il ne fonctionne pas, c'est qu'on n'a pas accès en fait aux add-ons.
On ne peut pas acheter des choses dans l'Azure Store si on a un compte de ce type-là. Donc il faut...
C'est une limitation temporaire.
Oui, c'est le temps qu'on résolve les petits soucis, on va dire légaux, etc., qui ferait qu'on puisse aller facturer sur votre compte prépayé. Donc en attendant, il faut créer une petite souscription à PS Hugo sur le côté. Il n'y a pas besoin de mettre de l'argent dedans puisque c'est gratuit. Et ça sert simplement à activer Matrix Hub.
Ce qui ne vous empêche pas de monitorer ce qui est dans votre entreprise agreement après.
Exactement, on va regarder comment ça fonctionne. Donc une fois que j'ai activé Matrix Hub, donc si vous n'avez jamais vu le store, chaque application a une page comme ça avec des liens vers notamment la console de management de l'application et puis d'autres liens qui vous donnent des informations sur le fournisseur de la solution en question. Donc on clique Manage. Et là, hop, on est envoyé avec du SSO directement chez Matrix Hub. Et on arrive sur la page Matrix Hub. Donc la première chose, là, j'ai déjà configuré un certain nombre de souscriptions. On peut monitorer plusieurs souscriptions avec le même Matrix Hub. Donc quand je crée le Matrix Hub sur mon petit PS Hugo, au début il est vide. Ouais. D'accord. Et ce que je dois faire, c'est ajouter des souscriptions. Et comment je fais? Je vais vous montrer en allant là-dedans, parce qu'on peut rajouter autant qu'on veut. Donc quand vous allez créer le Matrix Hub pour la première fois, il va vous afficher une petite page comme celle-là, qui vous dit, vous avez bien activé Matrix Hub, c'est bien. Maintenant, allez télécharger votre Publish Settings File, le fameux fichier qu'on utilise un peu pour tout, pour les commandes LED, pour PowerShell, etc., qui identifie, qui vous permet d'utiliser l'API de management Azure. Donc vous allez simplement télécharger le fichier, ça va vous envoyer un petit fichier Publish Settings, et vous allez l'uploader chez Metrix Hub. Moyennant quoi, il va se connecter à votre souscription. Et donc, si vous avez une autre souscription qui est en EA, vous y allez, pareil, vous vous connectez, vous téléchargez Publish Settings et ça va vous monitorer les deux souscriptions.
Oui, puisque le Publish Settings, c'est un peu les clés du camion. Hein,
avec Alors, ça, il faut faire attention avec hein, quand même. Hein, on le poste pas sur Facebook. Moyennant quoi, une fois qu'on a fait ça, on a plein de choses intéressantes qui apparaissent. Alors, je reviendrai sur le gros truc en haut là, qui est intéressant. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il m'a automatiquement trouvé mes services de compute. Mm-hmm. Donc ici, j'en ai deux, des workers là, mes VM. Donc ici, j'ai une VM sous Linux et mes websites, d'accord. Plus tous mes comptes de stockage. Alors sur les comptes de stockage, on peut tout de suite voir, en fonction de ce qu'on a activé comme log, on peut voir qu'il voit combien j'ai. Donc là, j'ai pas grand-chose. Là, j'ai 16 mégas de stocker dans ce compte de stockage-là. J'en ai peut-être plus là-haut. Là, j'ai 3 gigas 6. Voilà. On voit le nombre de requêtes sur le compte de stockage. On voit le data out, data in. Donc, ça donne une bonne idée déjà de comment ce compte de stockage-là est utilisé. Là, j'en ai qui sont internes, j'en ai qui sont externes. Donc déjà, d'un coup d'œil, on voit comment le compte de stockage est utilisé et ce qu'il y a dedans.
Tiens, il va falloir que je fasse ça parce qu'avec mes comptes HD Insight, là, ça serait pas mal que je regarde.
Ça donne beaucoup de... Donc, si on a activé les logs de monitoring, eh bien, on voit plein de choses. Donc, la availability, la latency, les erreurs, pourcent d'erreurs, pourcent de succès, etc. Donc, on a vraiment tous les détails sur l'activité du stockage. Donc, c'est
avec super, des belles courbes
super intéressant, avec des belles courbes qui sont générées. Temps réel. Donc ça, c'est sur le stockage. Sur les websites, malheureusement, pas des masses d'informations puisqu'il n'y a pas vraiment de monitoring détaillé. Donc on a simplement le fait que le site il est up et le temps de réponse. Donc tout ça, c'est monitoré, c'est tracé. Hein. Donc on peut après déclencher des alertes sur le fait qu'un site devienne down ou bien si sa latence augmente.
Hein, s'il change de couleur.
Voilà, exactement. Il devient jaune, il devient rouge. On fait quelque chose. Ensuite, sur les VM, c'est très sympa aussi. Quand je clique sur ma VM ici Linux, j'ai des graphes avec le CPU, la mémoire. J'ai même tous les process qui tournent lors de la dernière collection, la taille mémoire des process utilisés. Donc, tout un monitoring assez sympa. Alors, la seule chose à noter pour les VM, c'est que c'est quand même pas magique. Pour pouvoir monitorer une VM, il faut que j'installe un petit agent.
Ah.
Voilà, j'installe un agent sur la machine virtuelle. Et moyennant quoi, cet agent collecte les informations et les regroupe ici chez Metrix Hub.
Donc là, sur un Ubuntu, tu as un apt-get qui te permet de l'installer.
On fait un petit download, on fait un curl, on récupère un petit rgz, c'est un agent en Java. D'accord. On le lance, il monitor et il envoie tout nos Metrix Hub et on a la version Linux, Windows, il y a même FreeBSD.
D'accord.
On installe ça s'installe en 2 secondes et ça monitor les machines de façon assez détaillée. Vous voyez, on a l'espace disque libre, etc., etc. Donc sur les VM, petit agent, on peut même inclure l'agent dans le modèle de VM par exemple, comme ça il est par défaut. Et on monitor les VM, plus évidemment le fait qu'il soit up ou pas. Ici j'ai des services de compute. Donc les services de compute, c'est automatiquement monitoré pour peu que j'ai activé les diagnostics.
Ouais.
D'accord. Donc dans Visual Studio, propriétés sur le rôle et on s'assure que les diagnostics sont bien activés.
Donc tu les actives, mais après c'est lui qui configure et qui met les...
Il se débrouille tout seul, il collecte, on n'a rien à faire. Ouais. On active les diagnostics, on s'assure qu'ils sont stockés dans un storage Azure et basta, il n'y a rien d'autre à faire.
Très bien.
Et moyennant quoi, eh bien, il vous dit, alors ici il n'y a que des worker roles, donc il n'y a pas de endpoint à monitorer. Mais donc, il se trouve qu'ils ne font pas grand-chose, mais on a le CPU,
ça se voit, là, hein.
Démo et là. Mais ça tombe bien. Ça tombe bien parce que, sur les workers, je regarde, après si j'avais plusieurs rôles, j'ai le détail par rôle, d'accord. Donc rôle par rôle, je peux aller voir qu'est-ce qui se passe, et donc j'ai le CPU, mémoire, disque, lecture, etc. Donc j'ai à la fois la vision globale et la vision rôle par rôle de mon déploiement.
Instance par instance, tu veux dire ou...
Dans un rôle, donc ça c'est le global, et ensuite quand je descends dans le rôle, je vois toutes les instances du rôle.
D'accord.
Voilà, donc ici toutes les instances du rôle, et après je peux
continuer. 1, 2, etc.
Voilà, je descends encore d'un cran dans les instances. Et il y a quand même un peu de réseau, mais enfin bon, c'est léger, ça se trouve c'est juste la collecte des stats. Donc voilà pour les cloud services. Donc tout ça, ça se configure vraiment en 2 coups de cuillère à peau et on a une vision vraiment globale de ce qui se passe. Et après, deuxième partie super intéressante, c'est la partie c'est ce qu'ils appellent Active Scale. D'accord.
Ouais.
Donc au-delà. Alors, juste avant de passer à la partie scaling, une petite partie sympa ici dans les notifications déjà. Je peux me faire notifier si quelque chose se passe. D'accord, donc je peux activer les notifications là-haut et dire si le CPU passe au-dessus de ta ta ta, envoie-moi un email. Si l'URL externe, alors préviens-moi. J'ai tout un tas de triggers possibles. Donc disque lecture, interface réseau, les pings, nombre de requêtes complètes. Donc j'ai plein de critères qui font que je serai prévenu par mail. Donc déjà, rien qu'avec ça, on peut faire du monitoring. Okay.
Et l'argent aussi, j'ai vu dans le…
Et après, voilà. Donc ça, c'est intéressant pour savoir si j'ai un incident ou quelque chose comme ça. Et puis après, ce qui est intéressant, effectivement, c'est l'argent. Parce que l'argent, c'est intéressant. Et donc, ce qu'il vous dit, c'est que… Donc, il peut faire de l'autoscaling. Et l'autoscaling avec, en plus, une analyse de ce que vous pourriez économiser comme argent en activant l'autoscaling. Donc ici, il me dit que ma facture… Et donc, au total de 4 147 $ par mois.
C'est-à-dire, si on fait tourner les choses comme juste maintenant, pendant un mois,
ça va me coûter 4 147. Et il me dit, mais figure-toi que sur ton worker internal, ici, sur lequel tu as 4 instances, elles ne sont pas très occupées, tes instances. Donc, tu pourrais très, très bien en mettre des plus petites et ça marcherait aussi bien. Ce qui n'est pas bête. C'est une belle remarque. Et en tout cas, ça me coûterait beaucoup moins cher parce que j'économiserais 1 382 $ 40 si j'activais l'autoscaling. Et donc, l'autoscaling, il fonctionne comme ça. On peut l'activer, mettre un nombre minimum, un nombre minimal, un nombre maximal d'instances. Ça, c'est la version simple. Et après, dans la version avancée, eh ben, on a beaucoup plus de paramètres qui permettent de spécifier plus précisément quelles sont mes règles. Donc, le CPU, entre combien et combien est-il ? Combien de temps faut-il attendre que le CPU soit dans ce range avant de faire un scale-up ? Je fais un scale-up machine par machine, je peux mettre deux machines par deux machines, etc. Donc, sur typiquement un scale-up automatique sur CPU, ça se programme de façon assez simple.
C'est du Wasabi sans code, quoi.
Oui, Wasabi, donc une autre bibliothèque d'autoscaling.
Mais sans code.
Qui est sophistiqué, qui est très bien, mais il faut quand même développer avec.
Mettre un peu les mains dedans, tout ça.
Donc là, c'est vraiment zéro programmation, tout se fait en mode web. C'est gratuit, c'est inclus dans votre souscription Azure et vous pouvez monitorer plusieurs souscriptions de cette façon et faire de l'autoscaling. Donc,
impeccable.
Globalement, je vous recommande vivement d'y jeter un œil, c'est super bien.
Bah écoute, merci.
De rien.
Alors passons tout de suite à la suite. Windows Azure HD Insight.
Ah, HD Insight.
Donc ça, c'est du Hadoop.
Du Hadoop.
Sur Azure. Donc comment ça va ? Comment ça se passe ? Donc on va s'abonner à la fonctionnalité Preview ici. Et une fois qu'on a fait ça, sur son compte, on va pouvoir créer un nouveau compte HD Insight.
Ma foi.
Dans lequel on va donner un nom de cluster, la taille du cluster qu'on veut. Donc là, il y a 4, 8, 16, 32, mais si on va dans le custom create, on peut choisir, il suffit de taper le nombre de nœuds qu'on veut. Je crois que ça va jusqu'à 40 pour l'instant. Et puis ensuite, on va donner un mot de passe pour l'administrateur, l'abonnement sur lequel on veut faire ça, et puis un compte de stockage. Ce compte de stockage, en fait, c'est lui qui va... stocker les données par défaut, sachant qu'on a soit du stockage dans le blob storage, soit du stockage dans HDFS. Dans le blob storage, l'avantage, c'est qu'on peut éteindre le cluster et en rallumer un ou deux ou trois sur le même compte de stockage et attaquer ces données-là.
Et récupérer les mêmes données.
Donc, dans le cadre d'un cluster Hadoop élastique, ça a un intérêt que de faire comme ça.
C'est clair. Et là, les data nodes donc, sont des machines virtuelles Azure.
En fait, tout ça, ce sont des worker nodes.
Des worker roles.
Donc, si on regarde, une fois qu'on a créé le cluster ici, on peut aller dans Manage, qui est ici. Donc là, il va redemander le username et le password. Donc là, je les ai déjà entrés. Et puis, on peut aller dans Remote Desktop. Et dans Remote Desktop, on va pouvoir se connecter. Donc là, je l'ai fait par un autre moyen. Et on se connecte sur le head node qui est ici, dans lequel on va avoir un outil en ligne de commande, donc comme dans un cluster Hadoop Linux, sauf que là, c'est du Windows. Et donc là, on va pouvoir faire, par exemple, Hadoop fs-ls/. Et là, du coup, on va voir la liste des fichiers qui sont dans le système de fichiers distribués à la racine.
Donc, ça crée un cluster HDFS sur les data nodes.
Alors, par défaut, on est sur ASV, c'est-à-dire Azure Storage Vault, c'est-à-dire le blob storage. Donc, en fait, là, ce que je vois ici, c'est ce que j'ai au niveau de ce répertoire-là, donc dans éléphant jaune. Alors, celui-là, je vais le fermer. Hop, voilà. Donc l'exemple Hive, IIS Logs,
Ah
etc.
oui.
Donc par exemple les logs IIS qui sont
Donc là, c'est
ici,
Blob Storage, ok.
je les vois ici. Donc je peux aller dans IIS Logs. Voilà. Et je vais voir exactement les mêmes fichiers que j'avais
okay.
ici. Je peux faire un RM, hop, RM de IIS Logs out, par exemple, et puis supprimer le répertoire qu'on a ici. Et voilà. Donc, on a la possibilité de manipuler ce système de fichiers distribués ici. On a ici aussi la possibilité de voir les jobs qui sont lancés. Donc, si on lance un job, alors là, par exemple, on en a aucun qui est lancé. Donc si on voit ça, tac. Alors on a l'état du job. Donc ça c'est le portail standard Hadoop
ça,
en fait.
C'est le portail classique.
Donc, voilà. Donc running job, on voit qu'on en a aucun. Alors
par contre, tout est déjà installé et configuré, il n'y a rien à faire.
Ah exactement.
J'ai plus qu'envoyer les jobs.
Ouais, c'est ça. Donc pour lancer des jobs, on peut par exemple lancer un job depuis les samples qui sont ici. Donc là, il y a, je sais pas, le Graysort qui est un job classique en fait qui permet de faire des tris puisqu'en fait Hadoop par défaut fait des tris entre sa phase de map et sa phase de reuse. Et donc là, on a, ça va lancer cette ligne de commande là, Hadoop jar. Donc c'est un jar Java. Hein,
oui, bien sûr, avec le code du job dedans.
Voilà, exactement, dans lequel on va lancer ce job et puis on fait un execute job et ça va lancer le job sur le sur le cluster et on va pouvoir le suivre ici avec l'output, qu'est-ce qui se passe dans standard out, qu'est-ce qui se passe dans standard error, etc. Et on va pouvoir suivre les choses. On peut suivre également les choses, donc là il y a deux job history ici, et on va voir qu'il y en a un des deux qui est en train de s'exécuter, enfin qui est même fail d'ailleurs.
Ouais, mais il a fini,
parce que comme je l'ai lancé tout à l'heure, il a dû le fait de le relancer exactement au même endroit a dû poser un problème. Et puis je peux aussi monitorer le cluster d'un point de vue Hadoop, c'est-à-dire donc voir par exemple dans la dernière heure quels sont le nombre de maps qui ont été lancées, le nombre de reduce, le nombre de jobs, etc., etc. Donc là, on a vu comment lancer un jar standard. On peut également lancer du Pig et du Hive, par exemple, donc qui sont des langages de plus haut niveau et qui vont permettre de manipuler des données aussi, mais sans avoir à écrire le map et le reduce en Java ou en JavaScript ou dans d'autres langages. Donc là, on a des langages de plus haut niveau. Donc si je regarde, par exemple, alors je pars de mes logs IIS que j'ai montré tout à l'heure, donc qui sont ici hein, dans ce répertoire là. Donc si on regarde à quoi ressemble chacun des logs, en fait c'est ça. Hop. Donc on a une en tête, mais surtout on a un premier champ, donc des champs qui sont séparés par des espaces. Premier champ la date, ensuite l'heure, ensuite des champs dont on se fiche, et puis ensuite une URL. Donc on va dire qu'on veut afficher que l'heure et l'URL.
Okay.
Donc pour faire ça, j'ai le programme en Pig et j'ai le programme en Hive. Donc en Hive, je vais créer une table externe sur ce répertoire ISLogs. Donc le répertoire où il y a tous les fichiers, puisqu'en fait dans Hadoop, on va pouvoir voir un répertoire ou un seul fichier, un peu comme un ensemble de données.
D'accord.
Donc c'est qui sont à slash ISLogs. Hein. Puisque si je fais un Hadoop fs-ls de ISLogs,
ils sont stockés.
Je vais pouvoir le voir. Ça, je peux le faire. Hop, que je revienne ici. Donc, on l'a vu tout à l'heure depuis la ligne de commande, depuis le head node, mais on peut le faire aussi depuis la console interactive en JavaScript, qui est là. Donc, si je fais un dièse ls de slash ISLogs, je vois mes mêmes répertoires qui sont ici. Donc, pour manipuler ces fichiers-là, je crée cette table externe en disant voilà le schéma, en fait, puisque le schéma, c'est au moment de la lecture.
Tu décris le.
Donc, j'ai le hit date, hit time, ensuite des champs dont je me fiche, que j'ai appelé BCD.
Ouais,
et puis URL. Et puis, les ceux d'après, je ne les ai même pas nommés, en fait. Comme ça, je suis tranquille. Et je dis que ce qui m'intéresse, c'est de faire un select de hit time et de l'URL.
Et donc, puis, ça te permet d'exprimer finalement ta recherche sous forme d'une requête SQL.
Voilà.
Ce n'est pas exactement du SQL, c'est du HQL, mais c'est pas loin.
Exactement.
Et sur tes fichiers, et en fait, toute la partie de mapping, d'import du fichier, de transformation est faite automatiquement.
Voilà, exactement. Donc, si je le lance ici, en fait, à partir de ma ligne de commande, je vais dans Hive. Et puis, c'est là où j'ai le bin. Alors, j'en ai déjà un qui est ouvert. La seule différence, c'est que je l'ai mis en jaune comme, comme Hive. Hein. Donc voilà. Et puis là, je vais pouvoir du coup lancer ma commande. Donc j'ai mon fichier texte en fait qui contient exactement le code qu'on a vu. Et puis je vais pouvoir lancer ma commande Hive. Et même chose en pig. Donc j'ai ma commande pig. Donc le pig, il est forcément le cochon, il est rose.
Ouais,
donc là, j'ai le samplepig.txt. Donc je vais le mettre dans un samplepig 2. Zut.
Hop, il est parti.
Tant qu'à faire. Hop. Et là, je vais relancer mon job pig.
On n'a pas vu le source pig.
Alors, on va voir le source pig. Hop.
Ouais, ils sont partis comme des fous. Là, ouais. Yves, il est en train de bosser.
De mouliner. Donc, le source pig, il est là. Voilà. Donc là, c'est en fait, chaque dataset est créé suivant une variable, en fait, enfin, avec une variable. Donc là, j'ai load ESLogs using pig storage espace. C'est-à-dire qu'en fait, je charge le répertoire qui est dans ESLogs.
En splittant les champs.
Et j'appelle ça le dataset A. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on met tout en mémoire. Hein. Ça veut juste dire que fonctionnellement, c'est ça ce qu'on veut faire. Ouais. Et puis, pour chaque A, donc pour chaque enregistrement dans A, en fait, on veut générer le champ numéro 2, c'est-à-dire le $1, puisque en informatique, 2 c'est 1 toujours.
Tout à fait, on commence toujours à 0.
Et puis ensuite le $6 pour le 7e champ en tant que URL. Et on va générer ça dans le IS logs out. Et donc voilà, et on va pouvoir avoir nos données comme ça. Alors voyons ce que ça donne. Hop. Donc si je regarde ici, je vais avoir mes jobs. Hop.
Alors, le pig, il n'avait pas l'air en forme. Si, mais...
On va regarder. Alors, le. Hop, où est-ce qu'il... Donc, mon. Donc, là, il n'y en a plus, plus aucun qui sont en train de tourner. Non, on voit les anciens qui ont tourné déjà ici, etc. Et puis, on va les regarder chacun des jobs. Donc, le premier, celui-ci, bah, donc, on voit qu'effectivement. Alors, de temps en temps, il y a les headers. Donc, évidemment, ça met un peu le bazar.
D'accord,
mais autrement,
faudrait,
on voit donc le.
Il faudrait parser un peu plus.
Voilà, il faudrait regarder un peu plus,
tous les cas
un plus dans le détail. Okay. Mais en gros, ça a lancé un job MapReduce comme ça. Et puis, en pig. Effectivement, il a peut-être eu un problème. Qu'est-ce qui lui est arrivé
Ah oui,
Le ESLogsOut lui a posé un problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lancer dans.
Il fallait faire un RMR là tout à l'heure.
Oui, j'ai fait un RM au lieu d'un RMR, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Donc, ok. Donc, on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer celui-ci. Hop, Notepad. Comme ça. Donc, Notepad.
Attends, c'est un hog.
Voilà. SamplePig.txt, voilà. Et on va stocker ça dans ESLogsOut 2.
Ah bah ouais.
Hein, tant qu'à faire.
Ça, il va moins râler.
Ah. Save. Et ici, on va le mettre dans le log 3. Hop. Et donc là, on va lancer, on
là,
lance le job.
C'est parti.
Et voilà, là c'est parti. Et donc bah, ça donne le même type de résultat, sauf que là, il le stocke dans le blob storage. Et puis, donc là, voilà. Ensuite, on va avoir un autre point, c'est qu'on a aussi de l'HDFS, donc là, qui est stocké sur les fichiers locaux des différents worker nodes là, sur lesquels je suis connecté aussi en remote desktop ici. Là. Donc, c'est des, donc, et ce système de fichiers HDFS, ben, on peut le monitorer aussi avec le portail standard de Hadoop qui est celui-ci. Donc voilà. Et dernière chose que je voulais montrer, c'était le fait, enfin en tout cas évoqué, c'est le fait que dans Excel, on puisse récupérer les données qui sont dans des tables Hive depuis en fait un driver ODBC. Donc le driver ODBC dans la fonction, dans la section Downloads du portail, on peut télécharger
HD Insight.
Voilà, de HD Insight, on peut télécharger en fait ce driver ODBC qui est là, Downloads, donc en 64 bits ou 32 bits. Et puis, à partir de là, ce que ça va nous permettre de faire, c'est souvent, alors souvent plutôt dans Power Pivot que dans Excel directement, on va aller récupérer via ce driver ODBC des données. Donc là, je vais dans celui-ci. Hop. Voilà. Là, je peux l'appeler EJ comme éléphant jaune, par exemple. Alors, j'ai créé aussi une entrée ODBC sur ma machine correspondant à ce cluster-là. Voilà. Ensuite, je rentre à nouveau les credentials de mon cluster. OK. Next. Et là, je vais pouvoir récupérer, alors soit lancer une requête Hive qui va lancer en fait de la même façon un job MapReduce sur le cluster et récupérer les données ensuite dans Excel, soit récupérer directement le résultat d'une table, enfin depuis une table Hive, qu'elle soit une table externe ou une table, et puis le récupérer dans mon cluster, dans mon tableau Excel.
Donc là, il se connecte. Donc là, tu peux faire une sorte d'exploration un peu interactive. Tu lances, tu fais une requête. Ça va générer les jobs, alors ça va être un petit moment pour s'exécuter forcément, et tu auras directement le résultat dans Excel.
Exactement, donc là je vais pouvoir par exemple récupérer la table Hive par défaut, plus la table ESLogs, et je récupère ça dans Power Pivot. Ensuite je peux faire des rapports Power View, etc. Donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va avoir énormément de données, on va les cruncher dans Hadoop, on va pouvoir créer des tables plus petites, qui elles vont tenir sur une seule machine qui est Excel.
Ouais. Ça peut faire quelques dizaines de milliers de lignes ou plus.
Mais ça peut être même sur un 32 bits, je crois, on peut jusqu'à 2 millions d'enregistrements, par exemple, des choses comme ça. Donc après, on peut être aussi en 64 bits, mais voilà. Et on va récupérer ça et puis faire des graphes, etc. Et là, donc, ce qui va permettre d'avoir une visualisation des données ici. Donc voilà, en gros, ce qu'on a sur la partie. Bon, là, il est en train de récupérer les enregistrements.
Il faut quand même bosser un peu.
Voilà, exactement. Ce qui nous permet d'arriver à la dernière diapositive.
Celle-là.
Ah oui. Qui dit que voilà, le résultat Azure numéro 14, il est terminé.
C'est terminé.
Donc on se retrouve à peu près dans un mois.
Bah oui.
Bon,
c'est le rendez-vous habituel.
À bientôt.
Au revoir à tous.